Mes très chers amis, je vais vous parler aujourd'hui d'un miracle eucharistique qui s'est produit à Dijon en l'an 1430. Nous sommes à Monaco en 1430. Une dame achète chez un brocanteur un ostensoir qui contenait encore une grande hostie. D'où venait cet ostensoir et l'hostie qu'il contenait? On ne le saura jamais. On suppose seulement que l'ostensoir avait été volé au cours d'une adoration. La dame, acheteuse de l'ostensoir, ignorait que, au cours d'une messe, des hosties étaient toujours consacrées et que ces hosties consacrées étaient le corps de Jésus crucifié. Donc, elle ne savait pas que Jésus était réellement présent dans toutes les hosties consacrées. Rentrée chez elle, la dame veut nettoyer l'ostensoir et retirer la grande hostie qui s'y trouvait. Il fallait bien tout nettoyer. Ne pouvant réussir à retirer l'hostie avec ses doigts, la dame décida de l'enlever avec un couteau, et elle commença à la gratter soigneusement. C'est alors que la grande hostie de l'ostensoir se mit à suinter du sang frais. Curieusement, le sang sécha aussitôt en imprimant sur l'hostie une image de notre Seigneur assis sur un trône, avec de chaque côté les instruments de torture utilisés lors de sa passion. La femme, bouleversée, se précipita chez le chanoine Hanelon qui conserva l'hostie portant l'image. Monaco est proche de l'Italie et les relations entre cette ville et Rome étaient fréquentes. Comme par ailleurs les langues fonctionnent toujours bien, le pape Eugène IV fut rapidement mis au courant. Pour des raisons connues de lui seul, en 1433, le pape donna l'hostie miraculeuse à Philippe le Bel, duc de Bourgogne, qui à son tour la confia à la ville de Dijon. L'hostie miraculeuse fut probablement conservée dans une sainte chapelle qui deviendra l'église Saint-Bénigne. Et les fidèles commencèrent à vénérer l'hostie miraculeuse. Cela dura 350 ans. Mais la Révolution française vint. Le 8 janvier 1791, au cours d'une procession, avec l'assistance des responsables de la ville de Dijon, la Sainte Hostie fut transférée dans l'église Saint-Michel. Arrivée dans l'église Saint-Michel, la Sainte Hostie fut placée sur le maître-autel au champ de l'abbé Vérum. Puis, enfermée avec son ostensoir dans un coffre d'or, elle fut placée dans la chapelle de la Sainte Vierge, préparée pour la recevoir. À partir de ce jour-là, les fidèles vinrent très nombreux prier devant la Sainte Hostie. Les adorateurs étaient même si nombreux que pour contenir la foule, on plaça une grille de fer devant la chapelle où trois lampes, dont une en argent, brûlaient jour et nuit. Le 13 janvier 1791, le décret de l'Assemblée nationale du 24 août 1790 fut publié et affiché dans les rues de Dijon. Ce décret exigeait de tous les ecclésiastiques en charge une adhésion totale à ses principes. Tous les ecclésiastiques devaient prêter le serment suivant, appelé Constitution civile du clergé. « Je jure de veiller avec soin aux fidèles dont la direction m'est confiée. Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi. Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution française et notamment les décrets relatifs à la Constitution civile du clergé. » Ici, une petite explication s'impose. Par ce décret, l'autorité civile prétendait régler seule la nomination des évêques et des curés, le nombre et l'étendue des diocèses sans un accord préalable avec le Saint-Siège. Et l'Assemblée nationale, entraînée par son ardeur réformatrice et croyant à sa toute-puissance, voulut imposer sa constitution civile du clergé qui bouleversait l'Église de France. Le serment exigé devait être prêté dans les 8 jours, à l'issue de la grand-messe, en présence d'un fonctionnaire municipal. Tout prêtre refusant le serment était considéré comme démissionnaire et devait être remplacé par un prêtre jureur, les autres prêtres étant qualifiés de réfractaires. Nous savons que la révolution qui avait tué le roi le 21 janvier 1793 persécutait les prêtres. En janvier 1794, les adorations de l'hostie dans la basilique Saint-Michel étaient devenues intolérables. Aussi, le 9 février 1794, la commune de Dijon réquisitionna-t-elle l'église pour en faire un temple de la raison et le 10 février 1794, l'hostie miraculeuse fut brûlée par le citoyen Montéléon, le prêtre jureur, en charge de l'église. Enfin, l'église était vide de Dieu. Puis, en novembre 1794, on enleva de l'église Saint-Michel ce qui restait encore d'ornements et d'objets d'orfèvrerie. Ainsi disparurent, avec la lampe d'argent, le reliquaire d'or en forme de stensoir, dans lequel on exposait la Sainte Hostie, et le coffre de même métal qui lui avait servi d'écrin. Un procès-verbal du 22 Pluviose en 2 constate et raconte ce qui s'est passé. En voici quelques extraits. Je respecte le français utilisé. Ce jour d'huit 22 pluviose de l'an second de la République française, l'heure de 4 après-midi, nous sous-signés, suis alors la liste de tous les membres du Conseil de la Commune. Dans le bâtiment ci-devant appelé Saint-Michel, pour y vaquer aux opérations dont le Conseil de la dite Commune nous a respectivement chargés par son arrêté d'hier, le citoyen Montéléon, ministre du culte catholique, qui s'est trouvé dans le même bâtiment, nous a observé qu'il y existait une hostie très ancienne, reconnue par différents procès-verbaux de la municipalité de Dijon, de laquelle le vaisseau où elle était contenue ayant été retiré pour les besoins de la République, il nous a demandé d'assister au brûlement qui se proposait d'en faire, à quoi déférant le dit Montéléon a brûlé la dite hostie en notre présence et en celle de Denis Garot, ministre du culte catholique, et nous avons dressé le présent procès-verbal et nous avons signé. Le lendemain, toutes les églises de Dijon étaient fermées. Le culte de la raison allait pouvoir commencer. Le 25 février 1794, Bernard, dit Piochefer, écrivait de Dijon à la Convention. « Ici, plus d'église, ni d'évêque, ni de prêtre. Le temple seul de la raison et les discours patriotiques suffisent aux Dijonnais. » Déjà plusieurs bons habitants des campagnes sont venus me dénoncer leur curé et me demander de les en délivrer.